Parcours sur FM+, bienvenue dans notre site hebdomadaire de conférences. André Bourguet au micro, bonjour. Le 2 octobre qui s'approche est chaque année la journée de la non-violence. Mais en 2019, c'est aussi le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi. Événement qui va être mondialement fêté, et notamment en Inde, occasion de raviver la pratique des grandes marches pour la terre ou pour la paix. Voilà notre sujet. À cette occasion, le café actualité du CDTM, le centre de documentation tiers-monde à l'espace Martin Luther King, a demandé à Christian Bourrienneau de nous présenter l'opération Jai Jagat, la nouvelle marche internationale, qui va durer un an jusqu'en septembre 2020. Christian est membre du MAN à Montpellier, Mouvement pour une alternative non-violente, mais il intervient surtout comme membre de la coordination européenne de cette marche. Il est également au collectif Paysans sans terre ici et là-bas. Nous l'écoutons.
Bonjour à tous. Donc oui, là, on va parler de cette campagne qui va commencer le 2 octobre et qui se terminera dans un an. Donc là, c'est toute une série d'événements qui vont se produire pendant une année et qui vont être sous le nom mystérieux de Jai Jagat. Donc Jai Jagat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire victoire pour le monde, victoire pour tous. En fait, c'est un vieux slogan indien qui date des années 60-70, quand un disciple de Gandhi, Vinoba Bhave, essayait de récupérer des terres pour les plus pauvres. Et il avait ce slogan-là, Jai Jagat, pour dire, c'était un genre de salutation, bien-être pour tout le monde, bien-être pour la planète, voilà. Et c'est ce slogan que Ekta Parishad, donc le deuxième nom indien là qui est dessous, a décidé de récupérer pour en faire le slogan de la campagne. Donc Ekta Parishad, ça veut dire Forum uni ou Forum de l'unité. Et c'est le nom de l'organisation qui est un petit peu à l'origine de cette Jai Jagat, de cette grande initiative, de cette grande campagne. Alors, avant de venir sur la campagne elle-même, on va faire un petit peu d'histoire pour voir d'où ça vient, ce mouvement. Donc, ce mouvement Ekta Parishad a été fondé en 1991 par Rajagopal, que vous avez en photo ici, qui est un activiste gandhien qui a consacré toute sa vie à travailler sur les traces de Gandhi. Et qui a notamment désiré lutter avec les populations les plus défavorisées d'Inde, que sont les paysans sans terre, et puis les peuples autochtones. Donc là-bas, ils les appellent les Adivasis, donc c'est des aborigènes, si vous voulez, qui sont complètement marginalisés dans l'Inde d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, il a mis sa vie au service de cette cause-là, des paysans sans terre et des peuples autochtones, en basant l'essentiel de ses revendications sur donner les moyens de subsistance aux gens. Donc, de quoi ont-ils besoin ? C'est l'eau, la terre, les forêts, les semences. Voilà. Donc, le basique du basique. Donc, il faut savoir que la problématique de la terre en Inde, c'est énorme. Puisque quand une multinationale désire s'installer ou quand on veut construire un barrage, on ne se préoccupe pas des paysans qui sont sur le lieu et qui vivent. Ils sont envoyés ailleurs et puis ils se débrouillent. Et puis là, il n'y a pas de caisse qui permet d'obtenir un petit subside parce qu'on est expulsé. C'est tu te débrouilles et tu essayes de faire ta vie ailleurs. Donc du coup, ça a fait beaucoup de luttes. Alors... dans l'histoire d'Ekta Parishad, beaucoup de ces luttes se sont faites par des marches. Parce que la marche, c'est un moyen facile. Bon, à peu près tout le monde peut marcher, Donc il y en a qui ne peuvent pas marcher parce que les conditions de vie ont fait qu'ils sont handicapés ou ils sont trop vieux ou malades. Mais la plupart des gens peuvent marcher et ça ne coûte rien. Et puis, symboliquement, c'est se tenir debout. Et se tenir debout face à l'adversité, c'est déjà, hein, quelque part, être en marche, en lutte contre cette adversité. Donc, et puis ça reprend une vieille tradition indienne. On repense à la marche du sel de Gandhi en 1930. Donc là, quelque part dans la culture indienne, y a du traditionnel là-dedans. Et c'est un moyen de lutte qui est bien compris et qui est bien accepté. Alors ces marches, elles ont commencé tout d'abord au niveau tout à fait local. Hein, c'est-à-dire c'est dans un village... les personnes allaient protester devant le propriétaire de la terre ou bien devant le représentant de l'administration qui était corrompu pour réclamer leurs droits. Donc c'est des petits groupes au départ qui ont commencé à prendre conscience qu'ils étaient dans une situation d'oppression et qui ont décidé de se lever et puis de résister. Et au fur et à mesure des années, le mouvement Ekta Parishad a grandi, parce que alors, la situation de l'Inde, hein, c'est environ 1 milliard 200 millions de personnes hein, aujourd'hui, et c'est encore aujourd'hui un pays essentiellement rural. Même s'il y a de grandes migrations vers les grandes villes que sont Mumbai, Delhi et compagnie, c'est un pays qui est essentiellement rural. Et ce qui est frappant, c'est que donc, ces gens qui vivent à la campagne, en milieu rural, ils n'ont pas de quoi vivre. C'est-à-dire ils n'ont pas de terre à cultiver, ils ont très peu de moyens et ils vivent dans une misère noire. L'Inde est aujourd'hui un des pays du monde où on compte encore en centaines de millions le nombre de personnes qui souffrent de la faim. Donc, et ces personnes sont principalement des personnes qui vivent en milieu rural et qui sont quelque part des paysans. Donc c'est la contradiction suprême des paysans qui ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas de terre. Donc par rapport à tout ça, le mouvement Ekta Parishad, lui, a continué à agglomérer un petit peu ses forces, à former des gens, à leur montrer que la non-violence était un moyen de lutte efficace et qui permettait d'avoir des résultats. Et au fur et à mesure du temps, ce mouvement a grossi. Alors il a grossi notamment grâce à deux grandes initiatives qui ont été deux grandes marches qui ont eu lieu en 2007 et 2012. Donc la stratégie de Ekta Parishad, ça a été de dire « on fait des marches les plus en plus importantes ». Donc on a commencé par quelques dizaines de personnes dans un village. Et puis après, on est allé au niveau du petit district du coin, puis de l'État, parce que hein, c'est une fédération d'États, l'Inde, hein, donc ils sont allés au niveau de l'État. Et ensuite, ils ont décidé d'aller au niveau national. Donc là, c'est des marches qui voulaient faire pression sur le gouvernement national pour obtenir des résultats, une reconnaissance de la situation des personnes, dramatique de ces personnes, et avoir une certaine amélioration. Donc en 2007, il y a eu une marche dont le nom, c'était Janadesh, donc toujours des noms hindis, verdict du peuple. Et cette marche, elle regroupait 25 000 personnes, et elle a duré un mois. Alors juste pour que, voilà, penser au problème d'intendance, c'était nourrir tous les soirs, parce qu'il n'y avait qu'un repas par jour, 25 000 personnes, pendant un mois. Rien que ça, les problèmes, on voit le gigantisme du truc. C'est déplacer un village, hein, enfin 25 000 personnes, c'est une mini-ville chez nous, pendant un mois, c'est absolument gigantesque. Alors, ils dormaient sur la route, sur l'autoroute en fait, qui bloquait, parce qu'ils en bloquaient la moitié, et ils avançaient comme ça au fur et à mesure du mois. Et donc, ils ont marché pendant un mois, et ils sont arrivés à Delhi. À Delhi, une fois qu'ils sont arrivés au centre de Delhi, la police s'est bien empressée de les enfermer dans un parc. Et ils ont dit, ben voilà, nous, on ne bouge pas tant qu'on n'obtient pas la satisfaction de nos revendications. Voilà. Donc le bras de fer a duré quelques heures, puis le gouvernement a vu qu'il fallait qu'il cède. Donc il a signé un accord. Un accord qui a eu quelques résultats concrets. Ça a été la mise en œuvre d'une loi qui avait été votée précédemment, le Forest Rights Act, qui permet notamment de reconnaître des droits aux aborigènes, hein, tous les peuples autochtones qui vivent dans la forêt, etc., qu'ils ne soient pas expulsés par la moindre réserve pour le tigre, etc., qu'on veut bâtir pour les touristes qui sont en train de faire des safaris en Inde. Et puis, il y a eu aussi des simplifications administratives. Parce que là, c'est un grand pays, l'Inde, avec une administration pléthorique et une administration corrompue. Donc même si vous avez des droits, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les faire valoir parce que la personne en face de vous est corrompue. Donc là, il y a eu un peu d'huile, hein, dans les rouages qui a été mis, qui a favorisé certaines personnes et qui a favorisé certaines installations de paysans sans terre. Et ça a été aussi, après, décliné dans certains États. Et donc il y a des États qui sont un peu plus avant-gardistes que d'autres et qui ont permis que les droits, à certains endroits, avancent. Enfin, très rapidement, ils n'étaient pas dupes. De toute façon, les promesses d'un État, il faut souvent les lui rappeler. Donc c'est pour ça qu'en 2012, ils ont fait une grande marche encore. Cette grande marche, ils l'ont voulu encore plus grande que la précédente. Donc ils ont doublé le nombre de personnes. Ils sont repartis du même endroit. Et ils sont allés sur la route. Mais là, le gouvernement, voyant le nombre et que le soutien était encore plus massif, il est venu à leur rencontre. Et au milieu de la marche, donc à Agra, la cité du Taj Mahal, là, pour ceux qui connaissent, le ministre de l'Agriculture, il est venu pour signer un accord en 10 points. Donc là, ils n'ont même pas eu besoin d'aller jusqu'à Delhi. 10 jours de marche ont suffi pour que le gouvernement, quelque part, cède à cette pression et puis offre tout un tas de... Donc il y avait un accord en 10 points, que je ne détaille pas, mais qui offrait plein de nouvelles possibilités, à la fois pour les paysans sans terre, pour qu'ils puissent acquérir de la terre, pour qu'on leur donne de la terre, pour qu'on leur donne des titres de propriété, pour que le titre de propriété il soit donné à monsieur et à madame, et pas seulement à monsieur, parce que dans ces cas-là, c'est perdu pour la famille. Et puis, il y a aussi eu des mesures qui ont été édictées pour favoriser les sans-logements, y compris en ville. Donc pour leur donner... parce que le problème des bidonvilles, c'est un problème qui est d'une urgence absolue dans toutes les grandes villes de l'Inde. Donc il y a eu quelques améliorations comme ça qui ont été passées. Le problème, c'est qu'entre-temps, les majorités changent. Et le Premier ministre indien, qui est encore le Premier ministre actuel, Narendra Modi, là, a été élu peu de temps après. Bon, et la priorité du gouvernement précédent n'était plus la sienne. Donc là, tout de suite, on s'est dit il faut encore passer à autre chose. Mais au fur et à mesure du temps, Rajagopal et puis tous les gens d'Ekta Parishad, là, qui, pour obtenir du soutien, se sont promenés à travers le monde. Rajagopal est venu plusieurs fois, y compris dans cette salle ici, à Montpellier. Ils ont acquis un soutien dans le monde de plein d'organisations. Et puis, en voyageant, ils s'aperçoivent que, finalement, les problèmes auxquels ils font face en Inde, c'est un peu les mêmes qu'il y a partout. Alors ça ne se manifeste pas de la même façon. Mais le problème de la terre, pour un paysan français, ça reste encore quelque chose. Hein. L'analyse est, en fait, le problème de l'Inde, c'est le problème du monde. Enfin, c'est l'écho qu'il a, lui, au niveau de ses voyages de ces rencontres, etc., c'est de dire ben, il y a quelque chose de global. Donc, il faut qu'on prenne le problème globalement aussi, tout en continuant à faire des actions chacun localement. Donc, c'est comme ça qu'est né, dès 2013, le projet Jayjagat. Donc, ce projet, c'est immédiatement, enfin, en général, avec Taparishad, quand ils finissent une action, ils commencent à penser à l'action prochaine, parce qu'ils savent bien qu'ils ont obtenu quelque chose, mais on est toujours dans la lutte. Hein, à un moment donné, on a pu mettre un peu de pression dans le bras de fer. Ça a légèrement penché en notre faveur. Mais après, de l'autre côté, il y a beaucoup de forces qui font que les choses vont dans l'autre sens. Et très clairement, aujourd'hui, en Inde, faut savoir, hein, le parti au gouvernement, c'est un parti limite très nationaliste, limite extrême droite. C'est mauvais temps pour les mouvements sociaux. Et c'est très difficile pour le mouvement social d'essayer d'exister sous ce gouvernement-là. Donc, ils ont fait très attention de bien couper les liens avec tout ce qui venait de l'étranger. C'est-à-dire que c'est tous les mouvements qui étaient soutenus par l'étranger. On leur a coupé les vivres. On a empêché les fonds, par exemple, de venir. Les associations comme ActionAid, Greenpeace, Oxfam, là, qui pouvaient faire transiter des fonds en Inde, ne peuvent plus. Il faut que ça soit des fonds indiens. Parce qu'on ne veut plus, au niveau du gouvernement indien, qu'il y ait d'interférences venant de l'étranger, nous dire quelle est la politique appliquée en Inde, etc. C'est toujours le même. À partir du moment où un mouvement local il est aidé par quelqu'un de l'étranger, on dit, mais c'est l'étranger qui intervient chez nous. Voilà. Alors, du coup, sur le constat de la situation du monde, je ne vais pas m'étaler longtemps, on est tous au courant de la crise environnementale et sociale que nous traversons. Et partant de ce constat-là, on est au niveau d'une crise mondiale, il faut une action mondiale. C'est ça, un petit peu, qui a été le fil conducteur de réflexion autour de ce projet Jayjagat. Et dans ce projet, il a dit, il faut aussi pouvoir agir sur ceux qui ont du pouvoir au niveau mondial, donc les institutions mondiales, à commencer par toutes ces institutions de l'ONU que sont le FMI, la Banque mondiale, toutes les organisations autour du travail, l'organisation du commerce, etc. Donc, c'est quelque part, il faut afficher des messages parce que l'ONU, il y a des messages très différents qui sont passés dans ces différentes institutions qui ne sont pas forcément aussi tous dans le sens de aider les plus pauvres à se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et alors, quand on est avec Taparishad, on reste toujours chevillé au corps, l'héritage de Gandhi. Et donc, eux, c'est la vision du monde telle que Gandhi l'a transmise, qu'ils veulent essayer de promouvoir, parce que cette vision, elle semble encore bien d'actualité aujourd'hui. Donc, un attachement viscéral à la non-violence, mais aussi un attachement à l'autonomie, à faire attention à ne pas partir dans le tout technologique partout, faire attention à sa consommation, etc. Donc, tout un tas de choses qui sont issues de la pensée de Gandhi et qui sont encore tout à fait actuelles aujourd'hui. Et la volonté, c'est de développer un outil qui fasse qu'il y ait une convergence mondiale. Donc le but, c'est de toucher le plus de monde possible à l'échelle de la planète et pour un petit peu faire masse. Parce qu'on sait bien que c'est quand on fait masse que les choses, elles ont tendance à bouger un peu plus. Alors le 12 octobre, Madeleine l'a dit dans la présentation, c'est une date symbolique, date de naissance de Gandhi. Et cette année, c'est la 150e année donc, de sa naissance. Donc effectivement, ça paraissait intéressant de commencer un grand mouvement de masse ce jour-là. Donc voilà pourquoi le 2 octobre a été choisi. Alors, il faut savoir qu'en plus, en Inde, c'est un jour de congé. Mais derrière, ça va poser une problématique, puisque en Inde, quand même, Gandhi, il est révéré, y compris par le gouvernement. Il est révéré peut-être plus sur les billets de banque où il y a son effigie. Mais bon, on va célébrer quand même Gandhi le 2 octobre, y compris tout à fait officiellement. Donc là, une des gageures pour Ekta Parishad, ça va être de faire entendre une voix un petit peu différente le 2 octobre dans toutes les célébrations officielles dire, mais voilà, nous, voilà comment on voit le Gandhi aujourd'hui présenter l'Ajay Jagat là-dedans. Alors, derrière cela, quand on bâtit un mouvement, il faut établir une stratégie. La stratégie, parce que bon, on dit un mouvement pour la justice et la paix, on doit à peu près tous se retrouver là derrière, et même si on en parle à Donald Trump, avec un peu de chance, il serait d'accord. Donc là, quelque part, on n'a pas encore dit grand-chose. Bon. Alors, la stratégie, c'était de dire, bon, ben, l'ONU a signé en 2015 les objectifs du développement durable. Et puis, quand je dis l'ONU, c'est qu'il y a des États derrière qui ont signé ce document avec les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et donc, on va se servir de ces objectifs pour dire, bah, très bien, on a signé, par exemple, un objectif pas de pauvreté ou fin zéro, mais est-ce que derrière, à l'OMC, les mesures qui sont prises, elles sont en cohérence avec ces objectifs-là ? Est-ce que les financements du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale sont en cohérence avec ça ? Ou bien quand on dit y a des objectifs sur la vie terrestre, voilà, hein, est-ce que, par exemple, toutes les facilités sur les projets encore d'extraction minière ou de pétrole qui sont donnés par la Banque mondiale, est-ce que c'est encore cohérent aujourd'hui avec les objectifs du développement durable que l'ONU a édité et fait signer par plein d'États. Donc là, c'est un moyen de, se servir de quelque chose existant qui a été signé. Donc il y a des engagements de la part des États. Et donc il y a quelque part ici matière à exercer une pression en disant « Mais respectez votre signature. Qu'est-ce que vous faites de votre signature? Comment vous avancez sur ces objectifs, etc. » Donc ces objectifs, ça, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc on voit déjà qu'on est parti sur une décennie de lutte sur ces objectifs-là. Et ils font suite à des objectifs précédents qui étaient aussi d'une décennie encore avant. Donc on voit toujours qu'on s'inscrit dans le très long terme. Mais de temps en temps, il faut faire quelque part des rapports d'étape et puis des petites pressions pour rappeler un petit peu ces objectifs. Donc voilà, la stratégie, c'est-à-dire on va se servir de ça comme moyen d'approcher les organisations, d'approcher les États, d'avoir du dialogue pour essayer de mettre un petit peu de pression. Alors ces objectifs, c'est encore très, très global. Et puis il y en a 17 qui sont déclinés ensuite dans le document de l'ONU en sous-objectifs. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et c'est des luttes, quelque part, tous azimuts, hein, parce qu'on touche à tout. Hein. Alors la volonté, quelque part, ça a été de réduire un petit peu la focale et de se positionner sur 4 objectifs en particulier, qui sont ceux qui sont à l'écran, là. Donc éradiquer la pauvreté. Hein, là, ça, c'est l'héritage du travail d'Ekta Parishad. Il travaille avec les plus pauvres des plus pauvres en Inde. C'est sortir les gens de cette situation-là. Et chaque fois que la situation de ces personnes-là, il y a une avancée, c'est vraiment un gain et c'est une raison d'être du mouvement Ekta Parishad. Alors, après tout le travail autour de la discrimination et des exclusions, donc des formes de discrimination, race, genre, sexe, religion, etc., façon de penser, Il y en a des tas. Là aussi, il y a un long travail à faire. Et on voit que là, aujourd'hui, ce travail, il est toujours, on va dire, à date. Parce qu'il y a des forts mouvements, aujourd'hui, d'intolérance, à la fois politique, religieuse, raciale, qui émergent et qui vivent et qui avancent, et contre lesquels il faut résister. Bon, ces jours-ci, c'est arrêter la destruction écologique et tout l'enjeu autour de la crise climatique. On a le sommet de l'ONU aujourd'hui, mais c'est continuer à faire que les États, l'ONU et dans toutes ces exceptions, dans toutes ces organisations prennent en compte la crise climatique. On est en plein dedans aujourd'hui, mais ça va continuer. Et ça, c'est une lutte des années futures. Et enfin, mettre fin aux conflits armés. Alors là, on verra. Bien sûr, il y a du travail. Il y a des médiations qui sont possibles à plein d'endroits dans le monde. Ekta Parishad s'y est plus ou moins exercé à certains endroits. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui soutiennent Ekta Parishad, qui travaillent dans ce domaine-là. Ça fait partie des objectifs de l'ONU de faire que la paix dans le monde règne. Donc là, voilà, c'est bien de le rappeler. Et c'est bien de rappeler aussi que derrière, il y a des conditions à la paix. C'est-à-dire que plus on vend d'armes, plus on a de chances qu'il y ait de la guerre. C'est quand même quelque chose qu'on a toujours manifesté. Et si on vend en plus des armes à des belligérants actuels, il y a de grandes chances qu'ils les utilisent, y compris contre des populations que par ailleurs on voudrait défendre. Tout un tas de luttes autour de ces choses-là, de ces chantiers-là, qui sont tout à fait actuels et tout à fait à mettre en œuvre.
Nous voulons pour tous les hommes, nous voulons pour tous les hommes, le travail, le pain, la
Radio FM+, réseau associatif en Languedoc-Méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes. Christian Bourri-Hénaud est en train de nous présenter la grande marche internationale Jai Jagat, qui partira prochainement de l'Inde. Il passe maintenant des objectifs aux engagements avant de présenter l'itinéraire.
Alors derrière ces quatre piliers là qui vont revenir un petit peu comme une ritournelle dans tous les documents que vous pouvez trouver autour de cette Jai Jagat, ça revient, hein, ces quatre piliers. Il y a aussi des engagements. Alors là, on retrouve un petit peu ce qui fait le sel un petit peu de la philosophie gandhienne. C'est bien de travailler pour le changement du monde, mais ça passe aussi par le changement personnel. Hein. Donc c'est soit le changement que tu veux pour le monde. Donc, on est conscient du rôle de la terre en tant que terre nourricière. Donc on fait attention, y compris dans nos actes quotidiens, à ce qu'est la terre nourricière. Et derrière, il y a l'importance de la non-violence, à la fois comme façon d'être, mais à la fois aussi comme façon de lutter. Hein, c'est bien dans l'action sociale non-violente. C'est-à-dire, on est dans l'action sociale non-violente. Et c'est le moyen de lutte qui doit être privilégié. Derrière, Eh bien, on retrouve les buts d'Ajay Jagat. Hein. C'est quelque part avoir une pensée mondiale, donc une citoyenneté mondiale. On est tous sœurs et frères sur la même planète à partager ce monde-là. Et donc, quelque part, on est tous les citoyens de ce monde-là. Et on a envie de vivre et que tout le monde puisse vivre correctement sur, dans ce monde-là. Voilà, et puis c'est un engagement pour la justice, la démocratie. Donc là, c'est, et les droits humains, bon, c'est des choses qui sont un petit peu des conséquences de tout ce qu'on a vu auparavant. Alors, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont marcher, parce que là, le moyen de lutte de Ekta Parishad, comme je disais tout à l'heure, c'est la marche. Et donc, pour eux, Jay Jagat, c'est d'abord une grande marche. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont marcher. Cette grande marche, elle va durer quasiment un an. Et donc, les marcheurs, eux, ils vont porter les revendications à un niveau global. Mais dans ces marcheurs, il y aura tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire vous et moi, si vous voulez. Et puis, aussi, les gens parmi les plus pauvres, qui vont pouvoir porter leurs revendications à eux. En tant que voilà, être humain, qui sont dans une situation, à un endroit, voilà, ils vont dire, voilà ce qu'il me faut pour vivre, voilà ce dont j'ai besoin, et voilà pourquoi je marche. Et là, c'est très important dans le process, dans le processus que développe Ekta Parishad, c'est essayer d'avoir quelque chose qui vient de la racine. Hein, il parle tout le temps de processus bottom-up. Donc, il faut que ça vienne de la base des gens, etc. Et c'est ça qui va être important tout au long de la démarche et qui vont être faites durant l'année, c'est de se connecter aux besoins des différents marcheurs dans tous les pays là, qui vont accompagner et de faire émerger des revendications qui peuvent être plus ou moins localisées, mais qui vont forcément se rattacher à des grands problèmes globaux. Et donc, on va montrer que derrière une revendication qui part de la base et qui est celle d'une personne, ça rejoint forcément un problème global. C'est aussi montrer que l'action non violente, elle va être un moteur de changement. Donc, elle va être un moteur de changement à double titre. Bon, il y a un espoir de faire bouger quelques lignes. Donc là, par exemple, au niveau de l'ONU, d'obtenir des petites choses. Et ça va être aussi un moteur de changement pour tous ceux qui vont participer aux marches. Parce que, voilà, la marche, c'est un processus transformateur. Et la marche non violente, comme le souhaite Ekta Parishad, voilà, c'est un processus de formation, c'est un processus de transformation en lui-même. Donc, ça veut dire que tous les marcheurs, ils partent sur le chemin, déjà, ils se mettent sur le chemin de la transformation, rien qu'en participant à la marche. Cette marche qui se veut mondiale, elle va permettre de créer des liens et de faire que les gens se rencontrent. Et donc, tisser des liens, se rencontrer, c'est faire que des réseaux existent. Et quand des réseaux existent, eh bien, c'est des moyens nouveaux de résister, de proposer de nouvelles choses qui existent. Et ça, c'est très important pour la suite. Et puis, il y a une pensée aussi qui est très forte chez Ekta Parishad, c'est faire la place aux jeunes. Donc, il y a tout le processus de formation des jeunes, etc. Et pour faire émerger les leaders de demain. Donc là, c'est... Alors, on voit qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle prend en charge un certain nombre de choses, et c'est bien. Mais il faut l'accompagner, il faut la former, il faut... voilà. Et puis il faut se servir de cette énergie qui est donnée. Et penser au monde de demain, c'est déjà penser d'abord et avant tout aux jeunes qui feront le monde de demain. Voilà. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites à destination des jeunes pendant cette campagne Jay Jagat. Alors, la Jay Jagat, c'est une longue marche. Pour commencer, ça va être une longue marche. La longue marche avec trois temps qui se découpent. Un premier temps à New Delhi, autour du mausolée de Gandhi. Et 150e anniversaire de Gandhi, c'est aussi le 150e anniversaire de sa femme. Donc pendant 3 jours, là, Taparishad, ils vont faire un petit rassemblement autour de Gandhi pour faire le lancement de la Grande Marche. Et à partir du 5 octobre, ils vont se mettre en marche jusqu'au 25 septembre 2020. Voilà. Et puis ensuite, en septembre 2020, il y aura 8 jours à Genève, que je vais détailler un petit peu après. Alors la longue marche, c'est ça. Alors ça, c'est le plan qui date d'hier. Quand j'ai commencé à faire le diaporama, là, il y a 2-3 jours, j'avais un autre plan. Et j'ai fait un article pour une revue Nature et Progrès, là, qui a fait un 3 pages, là, sur, si vous pouvez la trouver, c'est pas mal, sur la Jayjagat, 3 pages, la carte est encore différente. Parce que quand on fait un événement mondial, on est soumis à différentes... Dans la carte que j'avais faite en juillet, il y avait encore un passage au Pakistan. Et la marche, elle passait par le Pakistan. Et puis le Premier ministre indien, là, au mois de juillet, a décidé de supprimer l'autonomie du Pakistan. Il y a eu... Du Cachemire, pardon. Et donc ça a eu un grand retentissement au Pakistan. Alors déjà, de base, on savait que la marche elle était interdite aux Indiens au Pakistan. Mais les étrangers pouvaient marcher et on pouvait symboliquement, en portant des portraits, etc., avoir une présence indienne. Mais là, la situation est devenue tellement tendue, tellement pourrie entre les deux pays, là, que envoyer des personnes sur le sol pakistanais, c'était trop dangereux. Et donc, il faut sauter le Pakistan. Bon, alors voilà, ça c'est le circuit actuel. Vous voyez par exemple que l'étape après l'Inde, donc maintenant c'est l'Iran. Donc aujourd'hui il y a une traversée de l'Iran. On ne sait pas ce qui peut se passer en Iran, mais on sait bien qu'il y a des choses au niveau international qui pourraient faire que la situation change. Voilà. Et que demain, si Donald Trump pète un plomb sur la question iranienne, l'Iran, ça ne soit pas forcément la bonne destination pour la marche. Bon, donc voilà, donc c'est un événement mondial, donc on se retrouve au cœur de l'actualité, et au cœur de l'actualité la plus bruyante, hein, au niveau des conflits les plus brûlants aujourd'hui. Donc forcément, ça a des conséquences sur cette marche. Oui, il y aura du bateau, au moins 2 fois. Donc, cette marche-là, elle va passer 4 mois en Inde. Donc, on va dire jusqu'à fin janvier, début février, ils vont descendre là, de New Delhi jusqu'à Sevagram, rencontrer des gens. Et puis, déjà, faire des premières formations. Donc il y a déjà plein de formations, notamment à destination des jeunes, des formations à la non-violence qui sont faites. Donc là, on est déjà dans le processus de formation. Et quelque part, avec la Parishad, ils ont des objectifs chiffrés. L'objectif chiffré, c'est de dire, pendant les 4 mois, là, on veut former 2500 jeunes à la non-violence. Donc ça en fait des sessions de formation, parce qu'à chaque fois, c'est 20 ou 30, hein, ce n'est pas des sessions de 1000 qui sont faites. Voilà. Et puis, ils vont évidemment faire des rencontres, tisser des liens, etc. Et donc, à l'issue de ces 4 mois en Inde, quand ils arriveront dans l'ashram de Sevagram, il y aura une assemblée. Une assemblée qui fera un petit bilan d'étape, hein, pour dire, ben voilà tout ce qu'on a rencontré, et voilà ce que... le groupe des marcheurs qui vont continuer la marche, ils vont continuer à porter au monde entier. Alors, dans cette marche de 4 mois en Inde, il y aura à peu près un noyau de 200 personnes qui vont marcher. Et parmi ces 200 personnes, il y a un groupe de 50 personnes qui est constitué de 25 Indiens et 25 internationaux qui, eux, vont faire toute la marche jusqu'à Genève. Voilà. est prévu tout un ensemble de grands rendez-vous. Alors le premier, c'est donc 2-5 octobre, la célébration du couple Gandhi. Parce que là, c'est le 150e anniversaire de la naissance. Donc la célébration du couple qui va être mise en exergue lors des célébrations à Delhi entre le 2 et le 5 octobre. Voilà. Et puis, ensuite, au cours de la route, il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus. Il y a un mois, je vous aurais mis un événement à Lahore ou au Pakistan, mais maintenant, il n'y est plus. Donc là, c'est possible que ça change aussi. Alors, il y aura un événement à Erevan, en Arménie. La non-violence comme outil de transformation politique, l'expérience arménienne. Je ne sais pas si vous savez, l'actuel Premier ministre Nikol Pachinian, il est devenu Premier ministre en 2018 suite à un mouvement non violent. Hein, c'est-à-dire, il y a eu une grosse protestation, ils ont bloqué. Je reprends du début, là. Il y avait l'ancien Premier ministre qui voulait rester au pouvoir, comme c'est souvent le cas. Et puis, il y a eu des grosses protestations dans la rue. Et. Ce Premier ministre, Nikol Pachinian, qui a fait de la prison en tant qu'opposant, etc., a dit « Non, ça ne peut pas durer. Maintenant, il faut changer de Premier ministre. » Et quelque part, la voix de la rue, ça a été de dire « C'est lui qui doit être Premier ministre. » Le parti au pouvoir, il a gambergé pendant quelques jours, mais il y a eu une pression de la rue qui a été forte. Il y a eu des blocages, etc. Et finalement, ils ont plus ou moins cété. Ils ont dit bon, « on va le nommer comme Premier ministre ». Mais très rapidement, ils ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, c'était le parti au pouvoir qui avait nommé presque un opposant comme Premier ministre. Donc on sentait bien que là, ça ne durerait pas longtemps. Et donc il y a eu de nouveau de grandes actions non violentes qui ont abouti à une démission du gouvernement, à de nouvelles élections, et le parti du Premier ministre, qui avait démissionné exprès, a gagné avec 70% des voix. À tel point que même par rapport à la constitution arménienne, il y a quelque part une limite vers le haut des pouvoirs. C'est-à-dire quand une personne a trop de voix, on ne lui donne pas tous les sièges auxquels il a droit, on limite. Et donc ils avaient atteint ce quota-là. Donc, voilà. Et donc ce Premier ministre-là, lui, il a une histoire personnelle liée à la non-violence. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est comment il a découvert la non-violence. Eh bien, c'est par une formation de Raja Gopal et d'Ekta Parishad, en Arménie. Donc voilà. Donc un petit peu, la boucle se boucle. Hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a découvert la force de la non-violence grâce à Ekta Parishad, etc., qui, a utilisé avec succès ce moyen d'action. Et quand la Jai Jagat a été mise sur les rails, évidemment, Raja Gopal, il a été trouvé, le Premier ministre arménien, il lui a dit « Ben voilà, nous, on fait une grande marche, est-ce que tu soutiens ?» Et il a dit « Oui ». Et on va même pouvoir faire une grande conférence, etc. Voilà. Donc il y aura des choses fortes en Arménie. Et il y a des histoires un petit peu comme ça, là, qui se passent. C'est un peu la même histoire en Géorgie, où eux, ils ont un ministère de la paix. Donc ils ont fondé un institut gandhien aussi. Donc voilà, il y aura aussi une conférence là-bas. Et puis après, il y a d'autres conférences. À Sarajevo, lieu de crise s'il en faut, et lieu sensible au niveau des Balkans. Donc là aussi, pour parler de la paix et comment... Comment vivre après le conflit qui a été connu et comment faire pour que ce conflit ne revienne pas dans les prochaines années. Et il y aura aussi un passage à Assise, donc là, avec la volonté de s'adresser aux grandes religions. Donc Assise, c'est le lieu de grandes rencontres interreligieuses qui ont eu lieu. Et donc là, la volonté, c'est de s'inscrire dans cet héritage-là. Et qui est aussi un héritage de Gandhi. Gandhi avait beaucoup, au cours de sa vie, fait pour le dialogue entre les différentes religions. Et lui, il a été chercher des choses un petit peu à droite, à gauche, pour bâtir sa façon de vivre, etc. Et enfin, il y aura le forum final à Genève. Donc c'est 8 jours à Genève pour faire la fête et l'arrivée de toutes les marches du monde, et notamment de la Grande Marche. Voilà. Donc il y aura un accueil, alors pour ceux qui connaissent, au Parc des Bastions à Genève, avec le grand repas partagé, The Meal. Donc il y en a quelques-uns ici dans la salle qui connaissent, hein, mais à Montpellier on en a fait quelques-uns. C'est des repas partagés. Et donc l'année prochaine, il y aura un grand repas. Alors c'est une initiative qui est partie de Suisse, de Genève, donc c'est normal aussi, la boucle est bouclée là aussi. Ça va finir en Suisse par un grand repas. Et en Suisse, on attend à peu près entre 3 et 5 000 marcheurs du monde entier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la ville de Genève s'est engagée à héberger ces 3 à 5 000 personnes en faisant appel à la population genevoise. Et donc il y a plein soutien de la ville de Genève pour ça. Bon. Et puis, dans le même temps, il y aura un village Alternativa. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît ici, en France, et puis à Montpellier. Il y en a eu. Donc on reste sur ce principe de montrer des alternatives à la population. C'est, voilà, un lieu de fête, d'accueil et de promotion des alternatives. Et puis ensuite, toutes ces personnes qui arrivent du monde entier... c'est intéressant qu'elles partagent un petit peu ensemble ce qu'elles auront amené de leur chemin, de leur route, etc., de leur expérience. Et donc, il y a 4 jours de forum avec des thèmes un petit peu qui ont émergé là. Et enfin, le jour de conclusion, donc un an après le départ, le 2 octobre 2020. Et donc, ça sera quelque part la journée de lancement, parce qu'on sait très bien que ça sera une fin, mais ça sera aussi un début. Hein, on est dans le début déjà, on est parti sur un processus de défense des objectifs de développement durable, donc c'est un processus sur 10 ans, donc là on sait qu'il va falloir continuer à se battre. Et comme d'habitude, avec Tapa Richard, une fois qu'ils ont fini quelque chose, ils pensent à l'étape suivante. Voilà, alors pour dire que Jay Jagat, c'est cette longue marche de 1 an qui va commencer le 2 octobre. Mais derrière, il va y avoir plein d'événements à l'échelle du monde. Voilà. Donc, en Europe, il va y avoir plusieurs marches. Il y a des gens qui vont relier la Suède à Genève, d'autres l'Allemagne, la Belgique. Il va y avoir une marche en Grande-Bretagne, puis après, ils vont faire le saut et puis aller voir Genève. L'Espagne, il y a une marche qui va partir du nord de l'Afrique, parce qu'il y a des morceaux d'Espagne au nord de l'Afrique. Et puis qui va aller jusqu'à la frontière française, au Pertus, avec pour thématique principale sur ce chemin-là, les migrants. Et donc là, eux, ils ont décidé de focaliser sur l'immigration, le passage de la Méditerranée, faire qu'il n'y ait plus autant de personnes qui meurent dans la Méditerranée. Donc ça, c'est un petit peu la focale qu'ils ont décidé de prendre côté Espagne. Il y a une caravane pour que vive la Terre qui est organisée par Gandhi International, donc qui va relier le Sénégal à Genève et qui fera étape à Montpellier. Donc là, c'est une caravane, c'est pas une marche, mais c'est toujours pour porter les mêmes genres de revendications. Et puis il y a des marches qui auront du mal à converger vers Genève parce qu'il y a quand même la mer à traverser, donc en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord aussi, probablement au Canada, il y aura des marches de soutien qui vont aussi avoir lieu. Voilà. Et puis en France, il y a un certain nombre de projets qui ont émergé, qui sont au stade du projet. Il y a des projets qui sont assez avancés, et puis d'autres qui sont... c'est presque seulement l'idée qui a été lancée sur la table. Donc parmi les projets avancés, il y a la marche Lyon-Genève qui partira le 12 septembre de Lyon et arrivera le 25 septembre à Genève. Donc le but, c'est de faire converger le maximum de marches le 25 septembre, mais on est en 2020. Hein. 2020, on est en 2020. Ah oui, la plupart de ces marches, elles vont avoir lieu en 2020. Toutes les marches là qui vont traverser l'Espagne, venir de Suède, etc. Le but, c'est on est en 2020 et on fait un mouvement de convergence vers Genève. Alors c'est sûr, hein, y a plein de gens qui vont partir de Suède, qui vont faire un morceau de la marche en Suède et puis c'est tout. Bon, mais pareil, de Suède, il va y avoir un groupe central de quelques personnes. Alors je sais pas combien ils seront, quelques dizaines, et qui vont faire l'ensemble jusqu'à Genève. Et comme de Suède, il faut traverser l'Allemagne, ils vont être rejoints par les marches allemandes. Et les marches allemandes, en fait, ça va faire un genre d'arbre, hein, parce que si on trace de Suède à Genève, et puis on a une diagonale sur l'Allemagne, mais il y a des marches qui vont venir du côté. Puis la marche de Belgique va venir se raccrocher à ça. Voilà. Donc ils vont faire une convergence à Strasbourg pour après descendre sur la Suisse. Voilà. Et tout ça arrivé le 25 septembre, le 25 septembre 2020 à Genève. Après, il y a des marches Grenoble, Chambéry, Genève. Bon, ils ont dit, oui, on n'est pas trop loin de Genève. Nous, c'est quelques jours de marche. On peut faire quelque chose. Alors, il est possible que la marche de Marseille-Genève passe par soit Grenoble ou soit Chambéry, ou les deux, et que donc, il y a certaines marches qui se rejoignent. Voilà. Et donc, il y a plein de projets comme ça qui sont lancés. Ouais, il y en a certains qui ne se feront pas, peut-être, et puis d'autres qui se feront assurément. Voilà. Et ici, alors je parle aussi au nom d'un collectif alors bon, qui a un nom Paysans sans terre d'ici et d'ailleurs. C'est un collectif qu'on avait fondé en 2011 en soutien avec Hecta Paris Chad et sa marche de 2012. Donc ce collectif, il regroupe un certain nombre d'associations. Donc il y a le CDTM, et voilà. Il y a la Maison des Tiers-Mondes. Il y a le MDPL, la Maison de la Paix à Midlarche, il y a Oxfam, il y a Le Mans, il y a Nature et Progrès et Alternativa qui se joignent à nous voilà, dans la préparation de ce qu'on voudrait être la marche Montpellier-Lyon. Alors le but, ce serait de faire une marche Montpellier-Lyon pour aller converger vers Lyon, juste avant le 12 septembre, jour où ils vont partir vers Genève. Voilà. Comme ça, ça donnerait un sens à la marche. Donc il y en a quelques-uns qui ont commencé à travailler sur ça. Ça fait partir vers le 15-20 août et marcher vers Lyon. Donc j'en profite, hein, là, toutes les personnes intéressées, alors soit pour donner un coup de main, soit pour marcher. Laissez-nous votre nom qu'on puisse vous recontacter par la suite. Donc là, j'ai des petites feuilles. Si ça vous intéresse, soit de marcher une journée, de marcher trois semaines, de marcher un mois et demi, tout ça, c'est possible. Si vous avez aussi des compétences qui peuvent nous être utiles d'une manière ou d'une autre dans la préparation d'une marche, que ce soit en communication, une grosse voiture pour transporter du matériel. Enfin bon, il y a 50 000 choses. Vous faites connaissance de la géographie dans la vallée du Rhône, etc. Parce que, ou bien vous avez des relais locaux qui peuvent accueillir les marcheurs et les faire dormir dans une situation à peu près confortable. Parce que nous, on va faire plus attention à nos marcheurs que les Indiens. Les Indiens, ils dorment sur la route. Hein. C'est impressionnant dans les grandes marches. C'est impressionnant. Les internationaux, ils sont pris ailleurs et puis ils vont dormir dans des petites sur un matelas, on va dire. Alors nous, on va essayer de se donner soit des petits matelas comme ça, mais on a du mal à dormir sur la route. Il faut aussi savoir c'est bien la marche, mais on ne veut pas en faire un exploit sportif et avoir absolument l'infirmerie ouverte du matin au soir sur ça. Donc voilà, donc chacun à sa mesure peut apporter quelque chose. Sentez-vous libre et puis c'est un appel au peuple, hein, très clairement. Voilà. Et oui, alors Madeleine a raison de me rappeler que dans les choses que l'on a décidé de faire au niveau du collectif Montpellierin, c'est évidemment de célébrer la soirée le 2 octobre 2019. Donc, pas le mercredi en 8, là. Hein. Donc, on a décidé de faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas rester indifférent et ne rien faire le 2 octobre, alors que se lance à New Delhi la Grande Marche et qu'il va y avoir un peu partout dans le monde plein de célébrations. Donc, le 2 octobre à Montpellier, le rendez-vous, il est à la salle Guillaume Donogaré, espace Pitot. Où il y aura à la fois des stands de diverses associations dont j'ai parlé qui soutiennent la Djidjagat sur Montpellier, et qui présenteront un petit peu leur travail. Il y aura une présentation d'Ajay Jagat. Bon, c'est un petit peu ce que vous avez vu là maintenant. Et puis il y aura deux groupes de musique qui viennent faire des concerts parce que ça doit être, ouais, ça doit être des, ça doit être festif. Voilà. Donc la soirée, elle va commencer à partir de 17h. Vous pouvez déambuler dans les stands. Voilà. À partir de 18h, il y aura des prises de parole. On en dira un petit peu plus sur Ajay Jagat et sur le projet Montpellier Rhin du collectif. Ensuite, il y aura un temps de repas. Donc là, c'est un repas tiré du sac. Donc là, chacun amène et puis on partagera tous ensemble. Il y aura de quoi boire sur le lieu. Hein, il y aura une buvette qui sera là. Et ensuite, à partir de 20h45, il y aura les deux groupes qui vont se succéder. Donc pour les connaisseurs, c'est Lou Barut, un groupe polyphonie occitane, et Yoka Mundo, c'est un groupe de slam un petit peu engagé, on va dire, voilà, qui viennent pour fêter avec nous le débat, le départ de cette grande aventure et de cette folle marche. Oui, alors là.
Sur FM Plus, antenne de Montpellier, Christian Bourrienneau vient de nous présenter la grande marche internationale qui va pendant un an relier la capitale indienne Delhi à Genève, nous l'a présenté et nous y invité. Cette marche s'inscrit dans la suite de fréquentes marches qui associent le principe de non-violence à la lutte pour la justice, d'abord dans l'appui aux multitudes de paysans sans terre et maintenant pour l'engagement dans le programme de l'ONU de développement durable. Christian est membre de la coordination européenne de cette marche et il était à ce titre invité du CDTM à Montpellier, à l'espace Martin Luther King, à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence le 2 octobre. N'oubliez pas que l'on fêtera à Montpellier ce 2 octobre le 150e anniversaire de Gandhi à la salle Nogaret, espace Pitou. Au revoir et à bientôt sur FM+, pour un prochain parcours.